tú eres muy malo, muy, muy malo. La interpretación siempre negativa, siempre negativa.
Y digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy.
En face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid.
Piqué, il faut qu'il aille avec Shakira, avec tout, la carrosserie, je sais pas, regardez.
Puede pasar de todo. Una bomba o dos bombas, no sé.
No, es que no te entiendas, es que hablas muy raro.
Ah.
Esa es la diferencia.
Yo creo que vocalizo muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí, bueno, pero yo en este caso creo que no.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu, un sacré match qui nous attend aujourd'hui pour la 16e journée du championnat espagnol. Une très belle affiche, un derby, même derby catalan. On va en parler, on va bien sûr évoquer ce match très attendu en haut tableau entre le FC Barcelone et le Girona Football Club ce dimanche soir. Pour nous parler du Barça, on retrouve évidemment Sacha qui est toujours la fidèle au poste, comme on a l'habitude de le dire. Sacha, comment ça va?
Ben écoute, Réfé, ça va super. Voilà, c'est un match qui me tarde vraiment de voir. J'aurai la chance en plus d'y assister. Tout comme notre acolyte qui est avec nous aujourd'hui. Mais en tout cas, non, ça va super. Et on y reviendra très tôt dans le podcast. Mais un peu de soulagement quand même du côté du Barça.
Ouais, après une semaine notamment qui a été assez rythmée, des semaines qui ont été assez rythmées, on va en reparler. Et puis effectivement, tu l'as dit, notre acolyte du Girona, qu'on connaît déjà beaucoup, mais qu'on a toujours un grand plaisir d'accueillir, c'est Thomas. Comment ça va, Thomas?
Bah, écoutez, très bien, et très, très excité pour ce match, pour ce derby catalan. Et voilà, on est vivement, vivement dimanche, et j'aurai aussi la chance d'y être, donc ce sera sympa.
Voilà, donc en plus un match qui va être vécu au stade par nos deux intervenants, on va dire, pour ce podcast. Un match, où on l'a dit, qui est très attendu. On va revenir justement sur la semaine du Barça avec toi, Sacha, parce que tu l'as dit, des soulagements après la semaine cruciale qu'a vécu le Barça. Il y a notamment eu ces matchs contre Porto et contre l'Atlético de Madrid qui ont été quand même deux chocs très attendus, notamment par rapport à la continuité de Xavi, par rapport à ce qu'on voyait beaucoup dans les médias. Voilà, toi, quelle a été ton opinion un peu sur ce que le Barça a proposé sur ces deux rencontres?
Ben écoute, c'était vraiment la semaine de tous les dangers et c'est terminé par un gros ouf de soulagement avec une équipe qui a vraiment mal commencé, si on prend vraiment les quatre périodes de ces deux matchs, mais qui a plutôt bien fini. Voilà, le match contre Porto, ben c'était un peu le Barça contre ses propres fantômes, quoi. Le Barça qui, au cours des deux dernières saisons, avait été reversé en Ligue Europa, qui a un vrai traumatisme avec la Ligue des Champions et qui date pas justement de ces deux dernières saisons. On se souvient de toutes ces éliminations. Le Barça qui avait un groupe assez facile au début, mais qui a quand même trouvé le moyen de se mettre légèrement dans la difficulté en allant perdre du côté d'Hambourg face au Shakhtar. Et là, la réception de Porto, après un match vraiment encore très moyen du côté du Rayo, une veille de trêve face à Alavés, pareil, avec une équipe qui avait laissé beaucoup plus de questions que de réponses, malgré le succès 2-1. Voilà, c'était l'occasion de bien répondre et surtout de se donner beaucoup de tranquillité sur le plan sportif, mais aussi institutionnel, parce que, comme tu l'as dit, Xavi était relativement questionné. On se demandait un peu où allait cette équipe, qu'est-ce qu'elle voulait proposer. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça nous régaler. Ça, je pense que c'était un peu comme une chape de plomb, en fait. Voilà, on sent que c'est une équipe qui était aussi conditionnée par ses mauvais résultats, qui n'y arrive pas, qui cherche la solution, mais qui, au final, se heurte toujours à certains murs qui n'arrivent pas à dépasser certaines limites. Et alors, le match contre Porto commence vraiment sur un petit rythme, avec un Barça qui reste un peu friable. Porto qui ouvre même le score. Et là, on se dit, attention, on a vécu cette scène trop de fois. Mais voilà, ce qui a tout changé, ben c'est que cet été, il y a des joueurs extraordinaires qui sont arrivés dans cette équipe, notamment un, João Cancelo, qui cette fois-ci, au lieu d'évoluer à droite, évoluait à gauche et qui nous a régalé d'un match extraordinaire, vraiment. Je pense que de mon impression au stade, peut-être à part Lionel Messi, j'ai jamais vu un joueur nous faire une performance aussi complète, aussi solide. Et vraiment, il a à lui tout seul renversé cette rencontre et l'histoire même de ce groupe de Ligue des Champions. Voilà, il a, dès la deux minutes après, il a réussi à égaliser, il a insufflé vraiment le vent de révolte. Et après, on a senti un Barça beaucoup plus libéré, On a senti une équipe capable de se dire, mais oui, c'est possible, oui, on peut le faire, oui, on est bon. Et voilà, ensuite, c'est une équipe qui est vraiment montée crescendo avec un Joao Félix décisif et un Joao Félix qui a été ben, après le héros de la semaine parce que maintenant, ça me permet de passer directement sur le match face à l'Atleti. C'était un match là aussi très attendu avec un Barça qui, avant cette rencontre, pointait à 7 points du Girona, 7 points du Real Madrid. Et là, on pouvait se dire que c'était un véritable tournant parce que, enfin, du moins, ça pouvait être un tournant négatif plus que positif, avec une défaite qui aurait été synonyme déjà de vrai décrochage. Un match où Joao Félix était très attendu, 3-4 jours déjà avant la rencontre, il y avait plein de déclarations, que ce soit de son côté, du côté de l'Atlético, on sentait vraiment que c'était son rendez-vous. Et ben, ce qu'on peut dire, c'est que ben, il s'est vraiment pas caché, il s'est montré, il a répondu présent, il a justifié aussi l'investissement et toutes les croyances qu'il y a du niveau du Barça en lui. Il a réussi à marquer ce but, le seul et unique de la rencontre, là où Lewandowski a été plus que mauvais, on va dire. Et non, voilà, c'est lui le héros. Il a été au centre de toutes les attentions. Même des défenseurs de l'Athletic, ils l'ont pas loupé sur toute cette rencontre avec un arbitre assez permissif, on va dire. Mais voilà, il a permis au Barça de dégager vraiment ce bon sentiment, ce soulagement, le Barça qui reste dans la course, là où il aurait pu totalement décrocher sur cette semaine. Et ça m'a fait penser un peu à la saison dernière, avec un Barça qui avait aussi une semaine avec la réception de l'Inter de Milan et le déplacement lors du premier Classico. C'était deux matchs qui s'étaient soldés par deux résultats négatifs, le 3 partout face à l'Inter qui était synonyme d'élimination, et la défaite 3 buts à 1 du côté du Bernabéu. Là, même si le Barça n'a pas été non plus flamboyant les dernières semaines, on a un Barça qui a réussi à décrocher des résultats probants, des résultats qui le maintiennent en vie dès la première partie de saison. C'est ce qui nous avait manqué l'année dernière. Donc là aussi, mine de rien, une certaine amélioration, et surtout un Barça qui, je pense, est arrivé de par ses performances et grâce à ses individualités qui ont été recrutées cet été à relancer sa saison dans la difficulté. Et ça, c'est une vraie amélioration et une vraie différence quant aux saisons précédentes, là où à chaque fois l'équipe avait connu des contre-performances dans ces moments décisifs.
Ouais, bah le terme moment décisif, je pense, est très juste comme tu l'as employé, parce que on l'avait déjà un peu évoqué précédemment, mais le Barça quand même attaqué, voilà, une semaine qui était sacrément mouvementée et attendue effectivement par beaucoup de monde, et surtout notamment pour Xavi, pour l'environnement autour du club aussi, tout ce qu'on a pu entendre. On reviendra notamment sur un point concernant un peu cet environnement autour du club juste après. Merci en tout cas pour tes explications sur cette semaine cruciale, comme on l'a dit. Je passe avec toi, Thomas, du coup, pour parler du Girona. Parce que mine de rien, voilà, on arrive à la 16e journée, on est presque mi-décembre, c'est-à-dire presque à la fin de la première partie de saison, et le Girona est toujours en tête en Liga, alors co-leader maintenant avec le Real Madrid, mais il y a quand même toujours cette folie qui persiste et cette première place qui reste aux mains des hommes de Michel. Il y a eu voilà, des rencontres un peu plus compliquées dernièrement, notamment les matchs nuls face à l'Atlético et face au Valencia. Ça n'empêche pas que voilà, le club reste pour l'instant, on l'a dit, co-leader avec Madrid. Quel a été un peu ton avis, ton ressenti sur justement ces deux matchs qui ont été un peu plus difficiles, notamment le match nul contre l'Atlético et puis la victoire, pareil, difficile, mais qui s'est encore soldée sur une remontada contre le Valencia.
Alors oui, effectivement, on a eu deux matchs un peu plus difficiles. Bon, après, même si c'était à domicile, l'Athletic Club fait quand même partie du haut de tableau et cette année fait une superbe saison. Et c'est vrai qu'on a commencé par eux et en retour de trêve, on a eu quelques blessures, quelques gênes musculaires pour les joueurs qui ont participé parce qu'en plus, Aleix Garcia a été international. Et bon, on a les habituels, les Ukrainiens qui étaient, quelques jeunes qui sont avec les sections jeunes espagnoles. Et du coup, on a eu deux absences de marque donc sur ce match. Et c'était Dovbyk et Lopez. Dovbyk qui est notre meilleur buteur et attaquant de pointe, qui est impressionnant cette saison. Et Lopez qui est notre défenseur central, qui est serein, qui pose le jeu, qui est vraiment un vrai leader. Et donc, du coup, face à cet Athletic Club qui est venu avec des intentions et comme on pouvait s'en douter, nous a vraiment fait mal et ça a donné un superbe match. C'était peut-être le plus beau d'ailleurs de l'année à Montilivi, comme l'a dit le coach, même si bon, voilà, Il y a eu que 1-1, c'était quand même un voilà, match très agréable. Et finalement, on l'a vu en fin de match où on a repris le dessus un petit peu. Quand on a essayé de pousser, mais finalement, l'absence de Dovbyk parce que nous a coûté cher, puisque finalement, à la fin, Stoani est sorti parce qu'il ne peut pas jouer 90 minutes, évidemment. Et du coup, on s'est retrouvé avec Porto en 9, qui n'est pas le plus grand attaquant de ce championnat. Et qui donc, du coup, a pas pu reprendre des centres. Et on a vu des joueurs très, très touchés physiquement. Bon, finalement, ça se comprend parce que tout le monde enchaîne. Et ça fait poindre peut-être le fait que notre effectif est vraiment en cours encore. Non, et c'est normal, on n'a pas autant de budget que tous les autres. Mais voilà, des petites difficultés qui se sont montrées sur ce match. Mais malgré ce contre-coup, entre guillemets, on aurait signé pour ce point avant le début de saison, hein, évidemment. Même si l'année dernière, on avait battu deux fois l'Athletic Club. Voilà. Et donc, on a enchaîné avec Valencia assez rapidement, puisque c'était le samedi. Et bon, voilà, on a cette fois, on a le retour de David Lopez et d'Ovbik. Et finalement, voilà, on a pu avoir un peu plus de joueurs. Et on a dominé ce match, mais on a buté. Et finalement, on a du mal à maîtriser les matchs depuis quelques temps, finalement, parce que. On est évidemment spécialiste des remontades et on l'a encore prouvé sur ce match-là, mais on voit quand même que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de match vraiment maîtrisé de bout en bout. Et même si on a eu la possession, évidemment, mais ça ne veut rien dire dans ce championnat et dans le football. Et voilà, Valence nous a porté un coup sur une contre-attaque. Voilà. Mais ce but a déclenché quelque chose encore et finalement, Mitchell. À innover tactiquement en mettant Stoani et Dovbyk. Et ça fait poindre peut-être une nouvelle tactique, peut-être une nouvelle arme avec les deux attaquants, nos deux grands attaquants, Stoani et Dovbyk, qui sont excellents de la tête, évidemment. Et voilà, ça, c'est peut-être une nouvelle arme contre peut-être des blocs bas, dans les matchs, quand il faut chercher un résultat à la fin. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Et voilà, et la folie est finalement le stade et cette équipe qui font qu'un, et c'est magnifique. Et on voit que cette saison, voilà, ça prouve encore chaque année, chaque semaine, ça montre que ce groupe est fort. Et bon, mais voilà, ça, c'est vraiment positif puisqu'on a pris 4 points et on est toujours co-leader. Et finalement, voilà, avant même ce match, on sera forcément deuxième. Mais voilà, on commence à avoir quelques difficultés, mais ce qui finalement est normal, hein, on a un effectif un peu juste. Donc du positif, mais voilà, quelques difficultés qui commencent à sortir.
Ouais, et pourtant, tu l'as dit, Mitchell parvient un peu à trouver les recettes pour réinventer l'équipe. Tu parlais de Stoani notamment, qui donc a signé ce doublé, qui, même si je dis pas de bêtises, s'est illustré aussi ce mercredi, oui, ce jeudi, pardon, en Coupe du Roi, où il y a eu d'ailleurs, je crois, aussi une petite remontada, puisque le Girondin, il semble, était mené 2-1 et a fini par l'emporter 5-2. Donc tu l'as dit, effectivement, pourquoi pas aussi une certaine réapparition de Stoani, qui voilà, a peut-être perdu un petit peu de protagonisme aussi dernièrement, mais qui confirme, voilà, à 37 ans, qu'il est toujours un attaquant aussi redoutable et aussi important, notamment dans ce genre de match. Donc ce sera peut-être, pourquoi pas, l'occasion de le voir à l'œuvre ce week-end face au Barça, justement parce que le Girona ira à Montjuïc, et ça me permet de parler justement de ce point-là que je voulais évoquer avec Sacha maintenant, c'est l'affluence qu'on a vue contre l'Atlético de Madrid à Montjuïc. On a vu que ça avait fait pas mal de polémique puisque effectivement elle était relativement basse. Dans la semaine avant le match, on avait vu notamment Xavi et même surtout Laporta appeler les supporters à aller au stade parce que voilà, on redoutait un peu cette affluence assez basse. Toi, comment t'expliques que justement face à l'Atlético de Madrid, qui est quand même un des plus gros matchs de la saison, il y a eu aussi peu de supporters qui se soient déplacés?
Ouais, c'est vrai que c'était la polémique un petit peu autour de ce match, d'avoir un Montjuïc plus que clairsemé dans certaines parties du stade. Moi, je trouve que ça s'explique mine de rien parce que le Barça, au cours des dernières semaines, n'a pas affiché un jeu flamboyant. On dit souvent que du côté de Barcelone, ce qui est plus important, c'est le jeu que le résultat. Et je pense que les supporters ont aussi matérialisé ça. Il y a des prix qui sont en vigueur assez chers. Mine de rien, on parle de certaines places à plus d'une centaine d'euros, c'est pas rien, surtout quand ben, l'équipe affiche un tel niveau où il y a des matchs aussi poussifs. Voilà, je pense que le match face à l'Avès, le dernier, beaucoup de supporters en quittant le stade étaient. Était en rogne et ça se comprend. Globalement, sur la saison, l'affluence à Montjuïc, elle est plutôt bonne. On se rappelle, il y a 3 semaines ou plutôt 1 mois, l'interview du vice-président économique, Édouard Roméo, qui disait que ben justement, l'affluence du côté de Montjuïc surpassait un petit peu les attentes, que lors du Classico, c'était la deuxième billetterie la plus élevée derrière le Classico de l'année dernière au Camp Nou, alors qu'il y avait 95 000 supporters. Mais voilà, comme je dis, je pense que le Barça, c'est aussi un club où il faut ben, montrer du jeu, il faut régaler les supporters. On sait que ce n'est pas l'une des ambiances les plus chaudes d'Europe. Voilà, quand on va généralement au Camp Nou, même à Montjuïc, c'est plus une ambiance de théâtre où on se délecte un peu de ce que les joueurs nous proposent, plutôt que vraiment une ferveur de tous les instants dans l'attente d'un but, qu'importe là où le jeu va. Moi, je pense que c'est vraiment la première des explications. Ensuite, il y a aussi peut-être le fait que le match à 21 une heure un dimanche, ça n'aide pas, surtout pour les supporters ne vivant pas à Barcelone, et même car le lendemain, c'est le retour au travail ou à l'école pour les enfants. Mais voilà, je pense que le prix, le jeu, et pour ce match face à Girona, les prix ont d'ailleurs été baissés, c'est ce qu'on a pu lire dans la presse, et justement, je pense que les supporters reviendront, parce que quand on voit la première période de cette qualité qu'il y a eu face à l'Atlético de Madrid, ça devrait être sonner le retour des supporters. Je pense que c'était plus une manière de dire au club et aux joueurs qu'il fallait proposer un contenu d'une qualité différente que réellement un vrai tournant dans la saison au niveau de l'affluence. Je pense que voilà, dans n'importe quel stade, du moment où l'équipe joue bien, les supporters viennent, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les facteurs du prix et surtout de la qualité proposée ces dernières semaines. Qualité qui peut s'expliquer encore une fois aussi par des blessures, un calendrier très resserré, beaucoup de pression, ça peut s'entendre, mais voilà, avec aussi le retour de certains joueurs, on y viendra pour la présentation de ce match, comme Frenkie de Jong, comme Pedri, voilà ce milieu à 3 qui a vraiment régalé. Je pense que ça devrait régler beaucoup de problèmes.
Ouais, donc en somme, une semaine qui est vraiment réussie pour le Barça, si en plus, comme tu le dis, le message effectivement a été entendu par les joueurs et par la direction. Le message des supporters, en tout cas, a été entendu par les joueurs et par la direction. Ça peut être aussi un bon moyen de confirmer que cette semaine a été réussie non seulement sur le sportif, mais aussi dans les tribunes, et c'est ce qu'on observera ce dimanche soir, justement. Et justement, avant de parler du match en lui-même, je vais te poser une dernière question, Thomas. C'est une question qui... a fait un peu polémique quand même dans la semaine du côté du Girona. Ce sont les mots d'Alex Garcia qui évidemment a confié, je crois, à Movistar que lui, en tout cas, aimerait beaucoup jouer pour le Barça à quelques jours voilà, d'un match qui est quand même un derby, qui est quand même un match important dans le haut de tableau et surtout vu le contexte actuel et la place du Girona. Est-ce que ces mots justement ne traduisent pas une espèce de complexe d'infériorité du Girona qui est pourtant mieux placé que le Barça au classement? Voilà. Est-ce que toi, tu partages cet avis ou pas spécialement?
Alors oui, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit, notamment en Catalogne Sud. Enfin voilà, c'est par rapport à nous, c'est vraiment dommage parce que bon, effectivement, Aleix García a fait une saison magnifique. Il est juste exceptionnel. C'est peut-être même notre meilleur joueur, notre pièce maîtresse. Et de voir, en plus, il est capitaine parce que les autres sont remplaçants. Et dans la hiérarchie, finalement, c'est le seul qui est titulaire. Et donc, il est capitaine et qu'un capitaine de ton club dise qu'il aimerait jouer, quand bien même c'est son rêve depuis petit, qu'il aimerait bien jouer face à l'adversaire qu'on est en train de qu'on va rencontrer ce week-end. Voilà, ça fait un peu mal. Après, il faut peut-être nuancer avec le fait que peut-être les journalistes aiment bien, hein, c'est la semaine avant le match, de faire monter la pression et de peut-être mettre un peu le bazar dans le groupe, et c'est peut-être hors contexte, mais bon, les phrases, c'est pas la première fois qu'il dit cette phrase, puisqu'il avait déjà dit à propos d'Oriol Romeu, qui sont amis, parce qu'ils sont du même village, et il avait dit à sa place, j'aurais signé les yeux fermés, donc ça avait déjà un peu posé polémique, et c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai pu observer Parce que historiquement, les supporters de Gironde ont beaucoup d'affection pour le Barça, parce qu'évidemment, Gironde a souvent été en D2, voire D3. Donc voilà, la grande équipe, c'est le Barça, ça représente les Catalans, et Gironde est vraiment une cité qui est vraiment catalane, qui est beaucoup... voilà, qui a quand même politiquement très indépendantiste. Donc voilà, le Barça représente beaucoup pour eux. Mais voilà, depuis que Gironde voilà, fait des excellents résultats en D2 et depuis en Liga, il y a quand même ce côté, peut-être une petite rivalité qui commence à arriver, notamment chez les jeunes, puisque les jeunes, maintenant, désormais, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais supporté le Barça. En fait, ils ont toujours supporté Gironde depuis petit. Et d'ailleurs, les dirigeants le répètent assez souvent, c'est ce qui fait leur fierté, c'est que de voir que le Gironde commence à être un pôle important de la Catalogne au foot. Et finalement, l'objectif, c'est d'être au minimum deuxième force en dépassant l'Espagnol, par exemple. Et voilà. Et en plus, voilà. Donc, ces mots d'Alex Garcia ont fait pas mal de mal. Et les gens sont prêts même peut-être à le sortir du 11. Voilà. Les plus passionnés, les plus. Voilà. Et bon, il faut rester mesuré peut-être. Et voilà. On sait que certainement il va faire un grand match. Et d'ailleurs, Michel n'a pas voulu énormément rajouter, mais il a quand même tenu à dire que, voilà, qu'il s'était trompé et que lui aussi avait connu ce cas au Rayo, puisque Rayo le Vallecas est un quartier de Madrid. Et voilà, évidemment, il y a beaucoup de gens qui supportent les deux. Et voilà, il y a ce sentiment d'infériorité, comme on disait, voilà, qui commence à arriver, puisque on a l'impression que Gironde est. Et voilà, il est un peu délaissé, on le voit par les médias catalans, TV13, qui cette semaine n'a fait que parler finalement du Barça, ou poser des questions sur le Barça aux joueurs et au staff. Et voilà, et ça commence peut-être voilà, à faire venir une petite rivalité, ce qui finalement pourrait être aussi pas mal pour les futures années pour ce derby, tout en restant quand même un peu plus amical qu'avec l'Espagnol. Mais voilà. Et donc, Gironde essaye de faire sa place et peut-être c'est un tournant voilà, dans ce genre d'interview et que de moins en moins de gens acceptent ce genre de propos qui avant auraient été parfaitement acceptés et dans un autre contexte on l'aurait accepté puisque c'est, voilà, chaque joueur a ses rêves et souvent c'est Barça, Madrid ou d'autres clubs en Angleterre, voilà, c'est en Italie, ça existe. Mais voilà, ces mots ont été ont choqué pas mal une bonne partie du public de Gironde.
Oui, bien sûr, c'est pas un cas à part du tout. Et effectivement, comme tu le dis, ce genre un peu de propos qui peuvent être tenus parfois aussi dans d'autres régions, dans d'autres villes. En tout cas, mais c'est intéressant par rapport à ce que tu disais justement, qu'on sente aussi du côté du Girona, voilà, une espèce peut-être de volonté d'émancipation entre guillemets dans la région. Maintenant que tu as dit, le club quand même commence à avoir de bons, même de très bons résultats. Le fait voilà de sortir un peu de l'ombre. Imposé par le Barça, qui est évidemment le cador de la région, et aussi voilà, faire son chemin. Et en tout cas, ça pourrait se comprendre, effectivement, surtout vu la saison qu'est en train de faire le Girona. Et justement, bah, je vais revenir avec toi, Sacha, pour parler du match en lui-même maintenant, pour rentrer plus ou moins dans les détails. En commençant, bah, comme on le fait toujours, par évoquer un peu les absents, et puis les retours aussi d'absence, s'il y en a signalé pour ce match du côté du Barça.
Ben écoute, au niveau des retours, à moins que quelque chose m'ait échappé, je crois qu'il n'y en a pas. Alors il y a eu une petite alerte là récemment avec Rafinha qui n'a pas pu effectuer un entraînement, mais en fait c'était juste une surcharge, donc normalement il sera là. En revanche, bon ben Gavi, malheureusement, on le sait, jusqu'en septembre prochain est sur la touche. Ter Stegen qui vient de se faire opérer également. Alors sa date de retour est un peu inconnue, on ne sait pas s'il reviendra au maximum au niveau du 8e de finale de Ligue des Champions, ou au minimum, et le plus souhaité, juste avant la Supercoupe d'Espagne. Voilà, et opération lombaire, on va voir en fonction du degré de gravité, de ses possibilités de récupération. Enfin, pour le dernier match, il y avait aussi Marcos Alonso, qui était forfait, et je n'ai pas vu de nouvelles dans la semaine informant d'un retour, donc à voir ce qu'il en sera. En tout cas, bon, c'est un joueur qui a très peu de chances de jouer, mais si, je pense qu'à part ces trois-là, il n'y a pas d'autres... Ah si, pardon, ton brave Inigo Martinez justement qui malheureusement juste avant le match face à l'Atlético s'est fait une blessure au niveau du biceps femoral et qui lui aussi ne reviendra pas avant janvier. Donc à part ces joueurs là il me semble que l'effectif du Barça est au complet.
Ok, donc un groupe plutôt complet comme tu le disais, malgré quelques absences. Du côté du Girona, Thomas, pareil, est-ce qu'il y a des absences éventuellement à signaler pour cette rencontre?
Alors oui, on a eu contre la Valencia, on a eu une grosse blessure. C'est qui paraissait pas très grave au départ, mais c'est Yangel Herrera, le Vénézuélien, qui est aussi une pièce maîtresse du milieu de terrain de Girona, et un des soldats de Michel, et qui a d'ailleurs marqué 4 buts cette saison, qui est un joueur qui se projette vachement vers l'avant, donc qui est essentiel dans notre jeu, et qui du coup sera absent pour 6 semaines pour une blessure musculaire. Donc ça va faire beaucoup, impliquer beaucoup de changements, et voilà, donc c'est quand même une sacrée mauvaise nouvelle, et c'est jusque-là, on avait été épargné et c'est le premier coup dur. Sinon, après, pas de gros retours parmi les blessés de longue date, a priori. C'est des jeunes ou des joueurs qui étaient déjà assez hors de la rotation. Donc, la plupart des cadres, à part voilà, Yangel, sont tous là, donc plutôt complets. Donc, on aura un match avec pas mal de joueurs importants sur la pelouse.
Très bien, ouais, donc de part et d'autre, quand même quelques absences avec des joueurs qu'on ne reverra pas forcément d'ici la fin de l'année, mais de manière générale, deux groupes plus ou moins au complet. Et puis bah, justement, pour parler du match en lui-même maintenant, je vais te poser d'abord la question tout simplement à toi, Sacha, parce que le Barça accueillera. Voilà, on sait qu'en plus, le Barça va attaquer ce match en étant classé derrière son rival, ce qui, je crois, n'est pas courant dans les derbies, dans la plupart des derbies catalans que le Barça en
tout cas. C'est même une première.
Voilà, je crois que j'avais vu passer la statistique, il me semble. Mais effectivement, oui, donc le Barça va attaquer ce match en étant classé derrière son rival. Voilà, comment toi tu le sens, tout simplement, comment tu l'abordes? Et puis voilà, pareil, si tu as un point à citer pour faire basculer la rencontre, une force en particulier à mentionner, bah, je te laisse nous donner ça.
Alors justement, je vais essayer de ne pas être trop long, mais c'est vraiment un point sur lequel j'ai envie de m'attarder un peu parce que c'est assez important pour ce match-là. Justement, comme tu l'as dit, le Barça est derrière le Girona à 4 points. Donc une victoire, potentiellement, ça te fait revenir à un point, mais une défaite, c'est 7. Et 7, c'est une grosse, grosse marge. Juste avant ce match, il y a le Real Madrid qui se déplace du côté du Betis. Donc les deux équipes connaîtront le résultat et ce sera pareil, pas la même manière de préparer cette rencontre en fonction d'un résultat positif ou négatif du Real Madrid. Au-delà de tout ça, je pense que c'est vraiment un match aussi qui est très attendu comme la confirmation. On l'a évoqué en début de podcast, mais le Barça a réussi à se sauver dans une semaine décisive. Maintenant, le plus important, c'est aussi de confirmer derrière ça. On sait que les matchs qui viendront par la suite contre le Valencia et contre Almeria seront importants. Mais voilà, là, il y a vraiment moyen de laisser derrière ces semaines un peu mauvaises et de surtout recoller tout en tête du classement. Ce serait une bonne opération. Je pense que ça va être un match aussi entre deux équipes qui ont des caractéristiques assez similaires. On parlait du Girona qui est le roi des remontadas avec 6 au compteur cette saison. Ben, le Barça, c'est aussi une équipe qui a réussi à remporter beaucoup de points après la 75e minute en marquant des buts. Ben, la dernière fois en date d'ailleurs, ben, au Rayo ou même encore face à Alavés. Donc je pense que ce sera un match qui sera assez plaisant entre deux équipes qui ont envie de jouer, qui ont à peu près les mêmes objectifs. La perte de Yangel Herrera au milieu de terrain, ça peut aussi être un gros avantage pour le Barça parce qu'on a vu un trio vraiment fantastique face à l'Atlético de Madrid, le milieu à 3, Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri. Voilà, Frenkie de Jong et Pedri qui ont manqué au Barça dans cette période un peu trouble avec beaucoup de matchs nuls. Ben là, maintenant qu'ils sont de retour, on a vu de quoi ils sont capables. C'est des joueurs qui se complètent à merveille, Frenkie de Jong qui est partout, qui vole sur le terrain, Gundogan qui a cette capacité vraiment d'aérer le jeu et Pedri qui magnifie un peu toutes les actions avec des fois des toutes petites touches mais qui arrive à vraiment bien sentir le jeu d'une talonnade, à qui il est très difficile de reprendre le ballon. Donc je pense que ce sera vraiment un match parfait pour consacrer ce milieu-là. En restant sur le milieu de terrain, il y a un joueur qui, ben, sur les dernières semaines, n'a pas joué ou très peu joué, c'est Oriol Romeu, voilà, qui est aussi très apprécié, bien sûr, du côté du Girona. Est-ce que la reprise en forme du Barça coïncide vraiment avec son écartement? On va voir. C'est clair et net que autant il avait été prometteur sur ses débuts, autant sur ses dernières semaines, il est au fond du trou, le garçon, il faut bien le dire. Un autre joueur aussi qui a perdu sa place, mais qui, pourquoi pas, pourrait aussi jouer, c'est Alejandro Balde. Voilà, on sait aussi qu'il a même été écarté par Luis de la Fuente. À voir d'ailleurs si les déclarations de Luis de la Fuente dans Marca ne lui sont pas directement, ne le concernent pas directement. Donc voilà, ce sera aussi un match intéressant pour eux, mais le milieu de terrain, pour moi, sera vraiment la clé de cette rencontre, surtout quand on voit les derniers matchs du Girona, avec vraiment des rencontres que, notamment face à l'Athletic Club, ça allait vraiment d'attaque-défense, avec un milieu qui semblait assez porté vers les transitions. Et je pense que justement, si le Barça arrive à garder cette balle, ce sera un vrai point positif. Lewandowski doit se racheter, parce qu'il a gâché 3 occasions plus que claires contre l'Atlético, et ça, je pense que face au Girona, quand on connaît le caractère de cette équipe, il faudra surtout pas s'amuser à rester devant par un but d'écart, ou alors même à être derrière et à gâcher des occasions. À devoir aussi un petit match dans le match entre Rafinha et Savinho, hein. Savinho qui est vraiment la petite bombe, la révélation de ce début de saison, un peu avec un Kubo du côté de la Real Sociedad, face à un joueur du Barça qui est beaucoup plus appliqué, beaucoup plus travailleur, qui est un peu frustrant aussi de par son manque de réussite devant. On aimerait voir un Brésilien beaucoup plus virevoltant, comme on peut le voir notamment avec Savinho, et même Yann Couto aussi derrière lui qui peut apporter beaucoup. Donc bien sûr Joao Félix qui, après son match, comme je l'ai dit, il avait été très bon, aura à cœur, je pense, de confirmer et pourquoi pas de s'affirmer en tant que meilleur offensif du Barça depuis le début de saison. Et allez, un tout dernier point pour évoquer la défense et vraiment être complet. On sent qu'Iñaki Peña a tout d'un second gardien, c'est-à-dire qu'il a un manque de compétition, peut-être manque de réflexe, mais par contre, dans les moments décisifs, il a su faire les arrêts qu'il fallait. Je pense que plus il aura gagné en compétition, en habitude, mieux il sera. Moi, j'étais très défiant quant à lui, et finalement, quand on voit son arrêt face à Memphis Depay sur le coup franc, même face à Correa en fin de match, ou même ses arrêts décisifs face à Porto, on sent que c'est un gardien qui a quand même du potentiel et qui est un grand professionnel. À voir aussi Araujo qui jouera masqué, si ça va le gêner, mais en tout cas lui aussi il aura fort à faire. Il va vraiment falloir qu'il soit présent, parce que les attaquants du Girona on connaît leur capacité à se faufiler dans la défense. Il faudra une vigilance de tous les instants. En tout cas voilà, un match qui me plaît beaucoup. Je sais pas ce que toi t'en penses, Thomas, mais le milieu de terrain, vraiment cette triplette du Barça, à mon avis, aura toutes les clés de la rencontre.
Ouais, donc tu l'as dit, beaucoup de points que tu as pu décortiquer qui, je pense, permettront aux auditeurs aussi de bien comprendre ce qu'on attend beaucoup du côté du Barça. Mais effectivement, tu l'as dit, ce gros focus sur le milieu de terrain quand même, dont on attend beaucoup, en plus des autres individualités, évidemment. Mais en tout cas, c'était très complet. Puis justement, pour te répondre, je vais passer la parole à Thomas. Déplacement du coup pour le Girona cette fois-ci, mais comment toi tu l'abordes cette rencontre? Voilà, on l'a dit, il y a eu deux matchs qui ont été peut-être un peu plus difficiles, mais mine de rien, il y a toujours cette première place qui est à conserver, qui est à garder, même si effectivement le Girona va la surpasser comme les attentes du début de saison. Donc voilà, toi Thomas, comment tu abordes cette rencontre, ce derby, du coup, du côté de Montjuïc?
Alors oui, ce sera, comme l'a dit Sacha, ce sera un match très très intéressant. Et même si on a pas forcément, en se disant, on a 4 points d'avance sur justement le Barça et 10 points d'avance pour la Ligue des Champions, on n'a pas vraiment la pression, ça, mais le fait d'être premier, enfin, même si on n'est que co-leader, on est deuxième à la différence, enfin, au goal average particulier, on a cette envie quand même, on sent aussi les supporters, le staff, le joueur, de vouloir titiller les grands et de continuer dans cette aventure. Et donc voilà, il y aura quand même une petite pression pour nous. Et comme je l'évoquais avant, la blessure de Yangel, qui est un élément essentiel du milieu de terrain, va impliquer forcément un changement de tactique, parce que Mitchell adore jouer depuis le début de la saison, et le système favori qui nous a donné beaucoup, beaucoup de points, c'est une sorte de 3-4-3 un peu asymétrique. Parce que en fait, il y a Eric Garcia, David Lopez et Daley Blind qui sont les 3 défenseurs centraux, mais Eric Garcia joue carrément à droite. Et Miguel est un peu plus avancé, même s'il joue latéral. Voilà. Et donc là, le fait de l'absence de Yankel, on va certainement faire passer David Lopez en milieu de terrain, donc en pivot avec certainement avec Aleix García, avec Ivan Martín, l'un des soldats et l'un des joueurs un peu méconnus, mais qui est essentiel aussi à notre jeu, qui sera un peu plus avancé. Et on risque donc du coup de se retrouver peut-être en 4-3-3, un 4-2-3-1. Donc ça va impliquer beaucoup de changements et on a beaucoup joué avec ce système aussi également, avec Yann Couteau ou Arnau Martinez en latéral droit. Et voilà, ça va peut-être faire des changements. Et comme l'évoquait aussi Sacha, par rapport au milieu de terrain, qui est bon, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux du monde actuellement, avec Frenkie, Pedri et Gundogan, ce sera voilà, avoir cette confrontation, parce que c'est pour ça aussi que peut-être Mitchell risque de faire confiance à David Lopez, qui est peut-être un joueur qui a le ballon, qui aime mieux le ballon, qui sait. Voilà, pour éviter des pertes de balles qui nous seraient fatales. Mais on risque de voir sinon l'équipe habituelle et avoir aussi peut-être les confrontations sur le côté avec Savinho, qui risque d'avoir peut-être Araujo, Koundé sur son côté. Ça va être vachement intéressant, parce que Savinho, c'est notre dynamiteur, c'est celui qui permet de vraiment percuter, de donner des centres pour Dovbyk ou Stuani, suivant qui est l'attaquant de pointe, et à voir si commence à être vraiment arrêté, tout ça. Peut-être qu'en cours de match, Mitchell, comme l'a fait si souvent, il passera Savinho sur le côté droit pour qu'il puisse rentrer un peu plus, parce qu'il est gaucher, et peut-être Sigankov, peut-être plus au milieu ou à gauche. Donc voilà, on a plein de possibilités pour changer, mais voilà, comme je dis, Angel fait beaucoup de changements et on n'a pas trop joué avec ce système-là, et ça va peut-être impliquer peut-être une autre défense, parce que avoir la gestion de la profondeur avec peut-être Cancelo et Joao Félix, qui vont peut-être vraiment attaquer sur le côté droit, où Yann Couteau était excellent offensivement mais un peu moins défensivement. Donc vraiment une confrontation qui sera énormément, en fait, très 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 intéressante tactiquement. Et voilà, je me doute que on va être très dominé par le Barça, parce qu'actuellement ça va un peu mieux, et voilà, et on aura notre système tactique, donc à voir. En tout cas, vivement dimanche pour voir tout ça à l'œuvre et voir comment les coachs réagissent aux différentes actions du match.
Ouais, donc voilà, tu l'as dit, peut-être plusieurs, en tout cas un changement tactique peut être plus ou moins important à attendre du côté du Girona. Du coup, c'est ce qu'on suivra, et puis effectivement on verra comment Mitchell, tu l'as dit, s'adapte aussi à la fin de Angel Herrera, qui est, voilà, on l'a répété, qui est un élément quand même clé de cette équipe. Mais voilà, dans les deux cas, je pense que vous vous rejoignez sur le fait qu'on attend, et puis moi aussi je vous rejoins d'ailleurs sur le fait qu'on attend un match vraiment très très disputé et très très enjoué, avec effectivement deux équipes qui ont quand même intérêt à gagner, qui ont intérêt à proposer de belles choses. Et puis justement, pour conclure ce numéro, on va évidemment terminer avec la série des pronostics, enfin, la section des pronostics plutôt. Je vais d'abord commencer avec toi, Sacha. Quel est ton pronostic pour ce derby dimanche soir?
Ben écoute, c'est vrai que je suis assez confiant et je verrais bien une petite victoire 3-1 du Barça, avec un Lewandowski qui fait taire un peu ses détracteurs et montre au public de Montjuïc qu'il n'est pas en bout de piste et qu'il a encore un peu de gaz, comme il l'a dit dans sa dernière interview. Voilà, il se voit encore jouer 3 ou 4 ans. Je pense que la meilleure manière de valider ça, ce serait de marquer au moins un but face à cette équipe du Girona.
Donc voilà, une victoire 3-1 plutôt du Barça. Thomas, de ton côté, qu'est-ce que tu vois comme score et puis comme résultat?
Alors honnêtement, avec la confiance retrouvée du Barça et donc du coup quelques absences qu'on a de notre côté, et puis comme je l'ai dit, depuis quelques matchs, on a un peu de difficulté à maîtriser vraiment les matchs. Je pense plutôt à peut-être un match nul 2-2, donc ce qui serait assez spectaculaire. Mais j'ai du mal à voir une victoire. Enfin, en tout cas, ce serait vraiment une énorme surprise, d'autant que face au gros, cette année, on a montré qu'on a toujours pas de victoire. Donc voilà, un nul serait espéré, mais ça ne m'étonnerait pas que le Barça retrouve sa confiance et lance une série et peut-être une victoire. Mais je vois un 2-2 pour ce match.
Très bien, ouais, donc un match nul 2-2, sachant que pour l'instant, effectivement, le Girona n'a eu qu'une seule défaite, elle était contre le Real Madrid un peu plus tôt dans la saison, en Liga en tout cas, mais donc ouais, dans les deux cas, un match avec des buts. Je vais vous rejoindre un petit peu sur les buts. J'hésitais à dire un match nul, mais je pense que ça va faire beaucoup parce que je crois que sur les derniers pronostics, j'ai souvent dit match nul en tout cas. Non, moi, je verrais bien peut-être une courte victoire du Barça de buts à 1. Je pense que le Girona fera un match vraiment très, très solide, mais qu'effectivement, il y a quand même en face le fait que le match soit à Montjuïc, que le Barça, bah voilà, on l'a dit avec Sacha, est traversé et survécu à cette semaine difficile avec brio, on peut le dire. Et donc, peut-être un gain de confiance, voilà, qui est plus fort du côté du Barça. Mais en tout cas, moi, je vois aussi des buts. Donc voilà, je dirais pourquoi pas un 2 buts à 1, mais voilà, un match aussi très sérieux du Girona et qui sera peut-être pas loin d'arracher nul, mais en tout cas, je vois une courte victoire du Barça pour ce derby. Et puis, bon, on arrive à la fin de ce numéro, en tout cas pour évoquer le match de cette 16e journée, un des matchs d'ailleurs les plus, évidemment, les plus attendus. Parce que c'est un des derniers chocs évidemment de la première partie de saison et puis parce que voilà, ça reste quand même avant tout un derby. Merci beaucoup en tout cas Sacha d'être venu nous parler du Barça comme toujours, d'avoir répondu à l'appel et d'être fidèle au poste.
Ben toujours, on le sait, Réfé, on est là, et puis non, ça nous fait très plaisir aussi ben pour les auditeurs, voilà, je pense que c'est un match qui est vraiment très attendu, et puis c'est un grand plaisir aussi de retrouver Thomas tout en bas de Montjuïc dimanche, et qu'on assiste au meilleur match possible.
Voilà, c'est ça, tu l'as dit, Thomas sera aussi au match, comme on l'a précisé. Merci beaucoup, Thomas, en tout cas, d'être venu. On rappelle que voilà, tu es membre aussi de la Peña qui est basée à Perpignan. Donc, merci beaucoup d'être passé dans ce podcast pour nous parler à nouveau de ton équipe qui, bah, voilà, on l'a dit, mine de rien, fait toujours une très belle première partie de saison.
Merci encore, hein, c'est vrai, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. De Girona, et d'ailleurs, en parlant de la Peña, j'ai un petit message à faire passer parce que, avec la Liga et grâce à Bastien qui est déjà passé sur le podcast et qui travaille à la Liga France, du coup, on organise à notre bar, notre siège social à Perpignan, l'Arena, qui se trouve au boulevard Clémenceau à Perpignan. On organise justement une soirée avec des quiz, des concours pour gagner des maillots, tout ça, et pour regarder le match, et bien sûr les Barcelonais qui habitent à Perpignan ou aux alentours sont les bienvenus, mais voilà, on a organisé ça avec le club, on a reçu des vidéos des joueurs qui nous pour parler de cet événement, donc c'est vraiment un plaisir et une fierté d'organiser ça, puisque d'habitude on sait qu'il y a eu des soirées qui étaient très 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 sympas à Paris, et voilà, donc on l'organise à Perpignan. Et voilà, tout le monde qui se trouve dans les alentours de Perpignan est invité. Et j'espère que bon, certains seront au stade, mais voilà. J'espère qu'ils passeront une bonne soirée aussi à Perpignan, dans une bonne ambiance.
Très bien, bah c'est notre tour, en tout cas on fera aussi le relais de notre côté, mais effectivement c'est une excellente chose qu'il y ait des événements comme ça qui puissent être organisés. Ça me fait penser qu'il y a eu effectivement aussi la semaine dernière à Paris l'événement qui a été organisé par notamment par la Liga et par Bastien aussi, qu'on salue et qu'on remercie à nouveau pour le match entre le Barça et l'Atlético, qui a été d'ailleurs aussi un franc succès. Donc voilà, on espère que ça pourra aussi se répéter là à l'occasion de ce derby du côté de Perpignan dimanche soir. En tout cas, on transmettra le message aussi de notre côté. Merci beaucoup à vous deux, bon match aussi du coup à vous deux qui serez au stade, et puis on espère voilà, que ce podcast comme toujours aura plu à nos auditeurs, et puis si c'est le cas n'hésitez pas à le partager, à commenter, et puis bon, en tout cas on se dit à très bientôt pour la suite de la saison Liga qui bah, mine de rien se rapproche de la fin de la première partie de saison, mais toujours avec énormément de matchs intéressants et passionnants à commenter.